À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Sainte Françoise Cabrini, ou Francesca Xavier Cabrini. Elle portait, elle, une femme, un nom d'homme, François Xavier. À son baptême, Françoise Xavier. Elle est italienne, et c'est une femme qui était aussi populaire dans son temps que Mère Teresa l'est devenue par la suite. C'est une religieuse fantastique, une féministe dans un sens, qui n'avait toutes les audaces pour établir une congrégation qui est extrêmement puissante, qui s'est répandue d'un bout à l'autre du monde, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Elle est morte en 1917 aux États-Unis, à Chicago. Elle a fondé des hôpitaux absolument fantastiques, les hôpitaux Columbus, qui sont connus aux États-Unis dans différentes villes. Et je vais vous raconter la vie de cette sainte qui a été canonisée peu de temps après sa mort, en moins de 30 ans. Elle avait une foi audacieuse qui ne s'est jamais, jamais, jamais laissée arrêter par l'impossible. C'est ce qui la marque le plus. Je vous raconte au départ un miracle qui a été obtenu par son intercession pour sa béatification. Un miracle extraordinaire. Il s'agit de Peter Smith, un enfant naissant, un bébé, qui est né en 1921 à l'hôpital Columbus de New York, hôpital fondé par les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, de Mère Françoise Cabrini, Francesca Cabrini, tout simplement. Or, peu après sa naissance, est survenu un événement vraiment tragique. C'est vraiment pénible quand on y pense. Cet enfant est devenu aveugle parce qu'une infirmière de service qui voulait évidemment suivre la procédure normale qui suit la naissance d'un enfant a nettoyé les yeux de cet enfant avec une solution qu'elle pense être du nitrate d'argent à 1%. Or, 2 heures plus tard, elle remarque que les yeux du bébé sont comme enflammés, sont noircis même. Et son visage est couvert d'ampoules. Et la solution a pénétré à l'intérieur du corps et va susciter une pneumonie en plus de ça, mais on ne le sait pas encore. Alors elle fait analyser la solution qu'elle a utilisée, puis elle est terrifiée quand elle voit ce qui en est. Elle a pas pris du 1%, elle a pris du 50%. Alors 2 médecins examinent le pauvre petit bébé. Et il déclare, sans équivoque, là, que le petit Peter Smith a été rendu aveugle de façon absolument permanente et pour toujours, là, c'est fini. Mais heureusement, la sœur supérieure de l'hôpital Columbus place quand même une relique de Mère Cabrini sur les yeux du bébé. Mère Cabrini est morte en 1917, on est en 1921. Elle veut obtenir un miracle, un vrai miracle. Le lendemain matin, évidemment, les sœurs passent leur nuit à prier pour obtenir ce miracle. Et puis, le lendemain matin, un examen des médecins révèle que les yeux n'ont pas été affectés. Non, il n'y a plus rien. Les ampoules sont disparues rapidement. Alors, un spécialiste de la vue vient analyser tout ça, puis il confirme un peu plus tard cet étonnant diagnostic. Chose curieuse, le petit Peter se met à développer cette pneumonie qu'on soupçonnait pas. Alors, sa température est montée à 109 degrés. Imaginez ce que c'est 109 degrés. En centigrade, c'est plus de 42. Ce n'est souvent même pas inscrit sur nos thermomètres. J'ai vérifié sur les miens ici. Ça s'arrête à 108 degrés ou 42. Les médecins, à l'unanimité, déclarent que la mort est imminente et que le cerveau de Peter Smith a sans doute dû souffrir de dommages graves. Alors, une fois encore, là, les sœurs qui y tiennent passent la nuit en prière. Ils ne peuvent pas croire que Mère Cabrini a intercédé d'une façon aussi merveilleuse seulement pour en arriver à ce que le bébé meure d'une pneumonie. Or, un autre miracle arrive. Oui, le matin, Peter est bien. Le petit bébé est très, très bien. Sa fièvre est tout à fait disparue. Il est en bonne santé, très bonne santé. Je vous reparlerai brièvement de ce miracle à la fin. Mais qui est donc cette Mère Cabrini, qui a donné son nom à un hôpital de Montréal, l'hôpital Santa Cabrini, fondé par les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, à la pelle des pères, les deux pères jésuites d'Apollonia, comme le signalait M. Pirro, directeur de Radio Imari. Eh bien, j'ai appris ce matin par Mme Alessandrini de l'hôpital Santa Cabrini que les religieuses sont parties il y a plus de 20 ans, 1976. Elles se sont répandues dans le monde où elles ont des hôpitaux partout. Mais nous avons perdu nos sœurs, mais il reste l'hôpital Santa Cabrini. Eh bien, Francesca Cabrini est née le 15 juillet 1850 en Lombardie, donc dans le nord de l'Italie. Je vous rappelle encore une fois que la Lombardie, dans ce temps-là, est occupée par les Autrichiens. Les Autrichiens qui sont à peine plus nombreux que nous, les Québécois. Francesca fait partie d'une famille de classe moyenne, une famille de 11 enfants, une famille catholique, évidemment. C'est sa sœur aînée, Rosa, qui s'occupe de l'instruire à la maison, ce qui n'est pas de mauvaise chose souvent au début, point de départ. Puis ensuite, Francesca fait merveille à l'école, et c'est très jeune qu'elle prend la décision de se faire religieuse. Elle veut vraiment être missionnaire, puis elle rêve d'aller en Chine. Alors, à l'âge de 19 ans, Francesca Cabrini demande aux filles du Sacré-Cœur, une communauté qui existe, là, de l'accepter dans leur congrégation, mais on la refuse à cause de sa santé, que l'on juge trop délicate. J'en sais quelque chose, ça m'est arrivé en 1946. J'ai été rejeté, refusé comme ça. Pourtant, hein, ma santé est encore bonne. Les sœurs canossiennes, on n'en a pas ici, des sœurs canossiennes, rejettent aussi sa demande pour les mêmes raisons. Alors, Francesca Cabrini réussit à obtenir un certificat d'enseignement, puis elle enseigne durant 2 ans dans une école de village. Heureusement, il y a un prêtre qui a été impressionné, souvent un prêtre qui surgit dans la vie de ses saints. Un prêtre qui a été impressionné par ses qualités d'enseignante. Et il est au courant de ses désirs d'entrer dans une communauté. Alors il en glisse un mot à l'évêque de Codogno. Il y a à Codogno une laïque du nom de Antonia Tondini. Je vous en reparlerai à la fin de l'émission. Elle dirige un orphelinat, cette Madame Tondini. Elle fait tout ça à ses propres frais. C'est une femme généreuse. Mais elle est réputée d'avoir bien mauvais caractère. Quoi faire alors, se demande l'évêque. Voilà la solution. Vous trouvez une enseignante qui va appuyer, lui, fortement auprès de Mme Tondini et qui pourra améliorer les choses à l'orphelinat. Or, évidemment, Mlle Cabrini, qui a bon caractère, semble toute désignée pour remplir cette tâche, d'autant plus qu'elle a son certificat. Et évidemment, ce n'est pas vraiment cela qui attire Mlle Cabrini. Mais elle accepte d'essayer durant 2 semaines. 2 semaines, après tout, pourquoi pas. Alors, ces 2 semaines finissent par durer 6 ans. Cette jeune Francesca Cabrini est tellement décidée à entrer chez les sœurs que elle veut tellement mener une vie toute consacrée à Dieu qu'elle décide en fait de tenir le coup auprès des orphelins en dépit du caractère de Mademoiselle Tondini, un peu comme pour se prouver à elle-même et peut-être prouver aux religieuses qu'elle ferait une bonne religieuse. Et quand finalement l'évêque en arrive à en avoir assez des singeries, dit-on dans certains ouvrages, ou disons des étrangetés de la pauvre Mademoiselle Tondini, qui a mauvais caractère, il décide de fermer l'orphelinat, mais il permet à Mademoiselle Cabrini de garder avec elle 7 membres du groupe qu'elle a rassemblé autour d'elle durant ses 6 années de dévouement. Or justement, c'est avec ces quelques femmes, ce tout petit groupe, qu'elle va fonder son immense congrégation. Et dès le départ, elle combine ses ambitions missionnaires pour la Chine avec sa dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Et de là le nom de sa congrégation, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Au début, le titre de missionnaire crée des difficultés. Pourquoi? J'ose pas parler trop fort, mais c'est parce que c'est simplement la première fois dans l'histoire qu'une congrégation de femmes porte le nom de missionnaire. Imaginez, qu'est-ce que ça peut faire, mais enfin. Mais heureusement, les choses se sont réglées rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre grande Église. Elles seront donc missionnaires du Sacré-Cœur. Il faut dire que les débuts sont faits dans la grande pauvreté, avec 1000 difficultés. La nourriture, le chauffage, toutes sortes d'autres choses sont la plupart du temps à peu près absentes. Mais quand même, ce petit groupe de 8 femmes centré sur Francesca Cabrini, qui est particulièrement charismatique au sens plein du terme, Or, ces femmes qui vivent ensemble dans un entrepôt perdu au milieu d'un quartier en ruine de Codogno, eh bien, ce petit groupe va devenir vraiment immense, comme je vous ai dit. Elles seront des milliers de sœurs qui s'occuperont de millions de pauvres gens partout à travers le monde. Je n'exagère rien. La congrégation religieuse de Sainte-Françoise Cabrini va grandir si rapidement qu'en 8 années seulement, elles seront déjà 145 sœurs consacrées là, dans 7 couvents. Elles s'occupent au début d'enseignements et de soins à accorder aux orphelins. Dans ses plans, Mère Cabrini songe rapidement à établir un groupe de ses sœurs à Rome. C'est de là qu'elle veut rayonner. Elle va avoir la maison généraliste là-bas. Elle y est d'ailleurs. Mais comme il y a déjà peut-être trop de couvents de sœurs à Rome, ça va lui prendre une permission spéciale. Et c'est en somme une procédure qui normalement prend 2 à 3 ans. Mais à Rome, on ne connaît pas encore qui est cette fameuse Mère Cabrini. Oui, Mère Cabrini part avec seulement une religieuse comme compagne. Elle descend du nord de l'Italie. Elle n'a aucun contact à Rome. Elle part sans savoir comment elle va se débrouiller. Puis elle arrive là, en 1887, à 36 ans. Or, elle obtient la permission nécessaire pour fonder un couvent à Rome en l'espace de quelques mois. Pourquoi? Parce que c'est une femme décidée, une femme forte, une sorte de bonne féministe avant la lettre. Et quand en janvier 1889, donc près de 2 ans plus tard, elle obtient une audience, disons une entrevue avec le pape Léon XIII, eh bien, le pape devient aussitôt un supporter de Mère Cabrini, devient même un ami. Il l'aime beaucoup, et pendant qu'elle est à Rome, Mère Cabrini rencontre aussi Monseigneur Giovanni Battista Scalabrini. Scalabrini, c'est un nom très connu en Italie, parce que c'est un prêtre extraordinaire, c'est celui qui en Italie réclame le plus de l'aide pour les immigrants italiens outre-mer. Ceux qui sont partis pour les États-Unis surtout, ou ici, ou à Montréal, et Monseigneur Scalabrini a non seulement réclamé de l'aide, mais il a fondé en fait une congrégation de prêtres, les Scalabriniens. Il a aussi fondé les Sœurs missionnaires de Saint-Charles-Borromée, puis une société laïque, ou si vous voulez, un institut laïque, Saint-Raphaël. Il a même fondé les Apôtres du Sacré-Cœur de Jésus, qui ont déjà envoyé des sœurs à Boston en 1902. Alors, Monseigneur Scalabrini est venu souvent en Amérique du Nord, il est allé aussi en Amérique du Sud pour analyser les choses et voir à l'établissement ses prêtres et ses sœurs. C'est un prêtre enthousiaste, c'est un prêtre à l'esprit évangélique, et Monseigneur Scalabrini se rend bientôt compte que l'archevêque de New York pourrait utiliser les services de Mère Cabrini. En effet, cet archevêque de New York a déjà fait appel à ses sœurs, à lui, pour qu'elles viennent y aider les immigrants italiens. Alors, Monsieur Scalabrini lui recommande donc de rencontrer Cabrini, peut-être en Italie, ou de lui écrire, pour la faire venir avec ses sœurs à elle, les missionnaires du Sacré-Cœur. Il faut se rappeler que Mère Cabrini veut plutôt se rendre en Chine. Mais son ami, si on peut dire, oui, son ami le pape Léon XIII, insiste pour qu'elle aille à la place aux États-Unis, et qu'elle y aide les immigrants italiens, aussitôt fait. Elle écrit, c'est une femme décidée, elle écrit immédiatement à l'archevêque de New York, un bon Irlandais. Elle lui dit qu'elle va arriver pas plus tard que mai 1889. Puis alors, comme ça prend du temps pour traverser l'Atlantique en bateau à ce moment-là, c'est donc dès la fin de mars à peu près que Mère Cabrini et 7 de ses religieuses quittent l'Italie. Et elles partent pour New York, pour la grande aventure qui va se développer en choses absolument fantastiques. Alors, les aventures commencent pour Mère Cabrini. C'est extraordinaire parce que quand elles arrivent, Mère Cabrini, puis ses 7 sœurs, dans le port de New York, elles s'entassent le plus vite possible dans un taxi. Elles se rendent dans un presbytère où il y a des Scalabriniens, des prêtres de Monseigneur Scalabrini. Et puis, arrivés là, les prêtres italiens leur disent qu'ils regrettent, qu'ils n'ont aucune chambre de libre. Et il leur conseille d'aller dans une maison de chambre, pas loin du presbytère, mais c'est une maison de chambre qu'ils ne connaissent pas très bien. Alors, la première nuit de ces pauvres sœurs aux États-Unis serait toute une aventure. En effet, Mère Cabrini et ses compagnes ont essayé de dormir. Mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? De la vermine, de la saleté effrayante. Tout ça, ça les tient éveillés toute la nuit. Mais courageusement, le matin suivant, elle se rend chez l'archevêque de New York. Et Mère Cabrini, femme solide, est absolument estomaquée quand elle voit Monseigneur Corrigan, un bon Irlandais, lui dire froidement qu'il lui a écrit. Il est surpris qu'elle n'ait pas reçu sa lettre pour lui dire de ne pas venir. que c'était inutile. Alors il leur suggère, comme ça, tout de go, là, de retourner immédiatement en Italie. Il ajoute que Céleste semble avoir traversé l'océan en même temps qu'elle. Mais même si l'archevêque de New York lui conseille de retourner en Italie, il ne sait pas à qui il s'adresse, parce que Mère Cabrini ne songe absolument pas à en tenir compte. Il n'est pas question pour elle d'aller nulle part ailleurs. Et elle regarde donc Mgr Corrigan bien en face dans les yeux. Puis elle lui dit fermement, « Non, Monseigneur, c'est impossible. Je suis venu ici avec la permission du pape lui-même, et je resterai donc ici. » Toute une religieuse, hein? Une sainte. Alors l'archevêque est peu habitué à se faire parler sur ce ton, surtout par une sœur. Oui, surtout par une sœur. Hein? On est à la fin du 19e siècle, il y a plus de 100 ans. Il décide donc quand même de réévaluer la situation. Alors d'accord, leur dit-il, vous pouvez rester, bon. Mais il n'est pas question d'administrer un orphelinat comme elles se le sont proposées. Cet orphelinat, on avait songé à l'établir d'ailleurs dans un quartier des plus fashionables de New York. Or, Mgr Corrigan en est absolument irrité. Pourquoi? Ben, pensez-y, ces bienfaiteurs les plus influents verront dans leur quartier ces petits orphelins italiens et ça risquera de les gêner puis de les ennuyer. Peut-être que les dons vont baisser. Et Monseigneur est horrifié. C'est ce qu'on raconte dans les livres, oui. Mais heureusement, c'est un bon évêque, au fond. Il se laisse attendrir. Oui, c'est un bon évêque, quand même. Mais l'édifice qu'on veut se révèle trop petit pour y installer un orphelinat. Alors, Mère Cabrini décide rapidement d'installer son orphelinat dans un quartier italien, et c'est pour le mieux. Et mieux dans un quartier italien. Durant les années suivantes, Mère Cabrini continue à ouvrir des hôpitaux ailleurs à New York, puis à Chicago, puis à Seattle. Vous vous imaginez des hôpitaux. Des hôpitaux, même à cette époque. Des foyers de charité aussi, elle établit ça. Des foyers de charité avant la lettre, si vous voulez. Des orphelinats, des écoles se succèdent dans différents endroits, comme Denver, Los Angeles et la Nouvelle-Orléans. Elle est sans cesse en voyage. Elle part toujours pour une nouvelle ville. Ou pour l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Puis encore en Europe, où elle est allée 28 fois. Son premier but, c'est de s'occuper des immigrants italiens, mais ses fondations sont ouvertes à tout le monde quand même. Elle fonde avec ses sœurs italiennes, puis petit à petit s'ajoutent des vocations locales, beaucoup d'Américaines, ou de gens nés aux États-Unis. Tout ça va si vite, en fait, qu'en 6 ans, la majorité des sœurs dans ces couvents américains sont nées aux États-Unis. Et Sainte-Françoise Cabrini, absolument merveilleuse, est aussi une excellente femme d'affaires. Elle est perspicace. Elle a grandement besoin d'argent pour fonder son premier hôpital à New York. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, moi, je trouve ça merveilleux. Au lieu de lui donner un nom de saint, elle l'appelle Columbus, ou si vous voulez, l'hôpital Colomb, Christophe Colomb. Elle ne tient pas absolument à lui donner un nom catholique, non. Et cette bonne idée, au fond, fait que le gouvernement italien, qui est plutôt anticatholique, hein, vous savez qu'il y a eu la guerre en Italie, puis la réunification de l'Italie au détriment des territoires qui appartenaient au pape, eh bien, le gouvernement italien décide de l'aider. Et même des groupes d'anticléricaux au sein de la communauté italienne. Elle fait donc la même chose à Seattle et à Chicago. Les hôpitaux s'appellent Columbus, là aussi. Quoique ces hôpitaux de Seattle et de Chicago portent maintenant, comme à Montréal, comme le nôtre, le nom de Santa Cabrini. L'archevêque de New York est devenu un ardent supporter de Mère Cabrini, ce même archevêque de New York. Il l'informe donc que l'une des belles propriétés en haut de la rivière Hudson est à vendre, appartenait aux Jésuites, qui veulent la vendre à cause de problèmes d'eau. Et le puits ne donne que juste assez d'eau pour boire. Alors, pour en avoir plus, il faut aller chercher l'eau en bas de la Grande Côte. Mais ça n'énerve pas tellement Mère Cabrini. Mère Cabrini trouve que le prix est convenable. Alors, écoutez bien, elle achète donc la maison sans hésiter. Elle baptise l'endroit West Park. Donne pas un nom religieux, non, West Park. Elle se promène d'un bout à l'autre de la propriété. Elle examine le terrain, là, pouce par pouce. Puis elle organise un creusage. Le creusage d'un puits à l'endroit qu'elle a indiqué. Qu'est-ce qui arrive? Vous le devinez, hein? Ce puits fournit une quantité énorme d'eau parfaitement pure. Petit miracle encore. Cette Françoise Cabrini manque souvent d'argent quand elle entreprend une nouvelle fondation, mais il semble qu'il y a toujours un petit miracle, un bienfaiteur qui surgit au dernier moment pour la tirer d'embarras. Un bon exemple, c'est celui de la fondation de Nouvelle-Orléans. Au printemps de 1891, quelqu'un assassine le chef de police de Nouvelle-Orléans. Alors, là, la presse locale blâme aussitôt les Italiens. Un certain nombre d'Italiens accusés du crime sont finalement acquittés lors d'un procès. Mais là, la foule se déchaîne, défonce la prison, s'empare des 11 de ses accusés et les pend sur le champ. Quand Mère Cabrini analyse la situation, elle se rend compte que les Italiens de l'endroit sont dans une situation bien précaire. Alors elle permet donc à l'archevêque de la Nouvelle-Orléans d'envoyer du secours. De retour à New York, Mère Cabrini choisit 3 religieuses pour fonder cette nouvelle mission. Puis après un long voyage de haut en bas des États-Unis, 52 heures, c'est long, ses sœurs arrivent à la Nouvelle-Orléans, en plein milieu de la nuit, sans savoir où aller. Alors, une des sœurs, qui est un peu originale, et sans doute une bonne américaine, décide de faire ce que Saint François a enseigné à son ami, le frère Léon, en somme, n'est-ce pas? Quoi faire en pareille circonstance? Alors, elle s'inspire de cette légende qui entoure la vie de Saint François. Qu'est-ce qu'elle fait, la sœur? Ben, elle tourne sur elle-même jusqu'à ce qu'elle soit un peu étourdie, puis elle pointe alors la direction qu'elles doivent toutes suivre. Bon, ben, alors elles partent donc à la noirceur. Mais là, il y a un cabriolet qui passe, le cocher arrête son cheval, puis il revient sur ses pas. Le cocher demande, puisque ce sont des sœurs en costume, il les a reconnues, si elles sont bien les sœurs qui viennent pour aider les Italiens. Elles répondent que oui. Il les fait donc monter, puis les conduit droit devant, justement dans la direction où elles allaient, jusqu'en haut de la côte où elles doivent se rendre. Petit miracle. Mère Cabrini se rend bientôt à la Nouvelle-Orléans pour se joindre aux sœurs, pour demander des aumônes afin de financer la situation. Puis elle va dire plus tard que ce qu'elle trouvait le plus difficile, c'était vraiment de demander l'aumône, de quêter. Pour elle, c'était humiliant. C'était une pénitence vraiment la plus pénible. Alors son prochain pas, c'est de s'emparer de l'Argentine, comme une tornade. Hein? Le nouvel archevêque, là-bas, aussi bien que les prêtres d'Argentine, sont sous le charme de cette grande sainte, cette femme exceptionnelle. Mère Cabrini répond à leur gentillesse en fondant une académie, ce que nous appellerions peut-être aujourd'hui une école privée ou un pensionnat. Et selon sa coutume, elle parcourt toutes les rues de Buenos Aires à la recherche d'une maison qui pourrait répondre à ce qu'elle désire faire. Elle la trouve, elle l'achète, même si on l'avertit que le quartier est loin d'être sécuritaire. Or, chose surprenante, le quartier se révèle être tout à fait convenable et même parfait. Mère Cabrini consacre presque tout son temps et ses énergies à sa congrégation, à ses nouvelles fondations. Et même à ça, elle trouve le temps de donner des conseils et des renseignements. Oui, à ses sœurs, à des sœurs d'autres congrégations qui viennent la consulter même. Si bien que grâce à ses nombreux contacts, en fait, plusieurs de ses congrégations lui ont obtenu à Rome un statut pontifical. Ça lui permet d'agir plus rapidement auprès des autorités de Rome, quand on sait jusqu'à quel point les congrégations religieuses dépendent de Rome pour bien des décisions qu'elles ont à prendre. Hein? Et c'est peut-être mieux, sans ça il y aurait des abus, je crois. Aujourd'hui, nous parlons justement d'une grande amie de Jésus, Santa Cabrini, Sainte Françoise Cabrini, qui a donné son nom à un hôpital à Montréal, je vous le rappelle. Mais malheureusement, les religieuses de sa congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur sont parties en 1976 pour se répandre à travers le monde. Je ne sais trop pour quelles raisons elles ont quitté cet hôpital, probablement parce qu'il y a eu une nationalisation de nos hôpitaux. C'est possible, je ne sais pas. Revenons donc à ce qui se passe dans cette congrégation. Elles ont obtenu, les sœurs, Mère Cabrini en particulier, grâce à ses nombreux contacts, un statut pontifical à Rome. Évidemment, ses rapports avec le pape Léon XIII sont excellents. Elle s'entend très bien avec ce pape, un ami. Et puis, il y a les cardinaux, puis les archevêques là-bas, et même un peu à travers le monde, ici et là, qui la considèrent aussi comme une amie, ou presque comme une amie. Il y a chez elle un charisme phénoménal, à tout point de vue. Et les journaux s'emparent évidemment de cette personnalité. Ils écrivent souvent des articles sur tout ce qu'elle accomplit à travers le monde. Et elle devient, disons, de plus en plus populaire. Tout le monde parle de Mother Cabrini. D'ailleurs, ce n'est que quand Mother Teresa, Mère Teresa de Calcutta, est devenue à ce point illustre malgré elle, qu'une religieuse catholique a été aussi connue et admirée que Mère Cabrini. Et peut-être davantage. Peut-être que Mère Teresa est devenue encore plus populaire. Quand on pense, c'est fantastique. Aujourd'hui, une qui les remplace un peu, c'est Sœur Emmanuelle, dont il a été question aux nouvelles à Radio Marie. Aujourd'hui, Sœur Emmanuelle, sur laquelle il y a beaucoup d'ouvrages de publier, une Française cette fois-ci. Alors, cette espèce de roman d'amour entre Mère Cabrini puis les États-Unis a duré longtemps. Elle est devenue facilement citoyenne américaine en 1909. À peine quelques années avant sa mort, elle est morte en 1917. Mais à son sommet, là, au cours de sa vie, sa congrégation a compté 1400 sœurs. 1400 sœurs qui se dévouent dans de nombreux pays. 9 ans après sa mort, d'ailleurs, je signale ça en passant, un riche Chinois, vous savez, je vous ai dit qu'elle rêvait d'être missionnaire en Chine. Alors, un riche Chinois, un marchand, offre de financer une mission des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur en Chine. Et Mère Cabrini a dû voir, j'imagine, comme on dit, du haut du ciel, mais nous sommes dans le ciel. Le ciel est là, Dieu est là, les anges sont autour de nous, les saints nous accompagnent dans notre vie, ils nous épaulent, ils nous soutiennent, ils nous donnent le bras. Mais oui, les saints sont là, nous sommes dans le ciel, mais on a des yeux de chair et on ne voit rien. Alors Mère Cabrini, qui devait entourer ses sœurs un peu partout, elle voit donc son rêve d'enfance se réaliser. Oui, c'est en 1926. Bon, c'est l'année de ma naissance. Hein. Petit détail intéressant, lors de sa dernière visite en Italie, Mère Cabrini cherche à revoir la fameuse mademoiselle Antonia Tondini dont je vous ai parlé, puis je vous ai promis que je vous en reparlerai. Cette femme plutôt désagréable, hein, qui a pour ainsi dire testé ou éprouvé, si vous voulez, sa vocation à la vie religieuse pendant 6 ans. Quand Mère Cabrini retrouve mademoiselle Tondini, qui a maintenant 80 ans, elle se jette à genoux à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait, Mère Cabrini, à genoux? Elle demande pardon à mademoiselle Tondini. Elle, cette religieuse réputée dans le monde entier, elle demande pardon pour tout ce qu'elle aurait pu faire de désagréable à son égard, par des réactions, à l'occasion où elle n'en pouvait plus. La patience, c'est un moment où on n'est plus capable, on dirait, d'être patient. Quand on se fait dire toujours les mêmes choses, les mêmes choses désagréables. Mais la vieille mademoiselle, que je vous ai bien dit, âgée de 80 ans, relève simplement cette chère vieille mère Cabrini, qui est moins vieille qu'elle, et l'embrasse. Évidemment, on verse des larmes. Et mère Cabrini dit à mademoiselle Tondini qu'elle a prié pour elle tous les jours depuis 30 ans. Et alors, mademoiselle Tondini, bonne vieille italienne au un petit sourire un peu risqué, dit que si elle avait elle-même été meilleure, si elle avait eu moins mauvais caractère, quand elle était moins âgée ou plus jeune, peut-être que Françoise Cabrini s'occuperait encore d'orphelins à Codog, non? Au lieu de parcourir le monde en faisant autant de bien avec des centaines de religieuses autour d'elle. Une façon charmante d'avouer ses torts en disant que ça a porté fruit. Mère Cabrini retourne à Chicago. Je vous rappelle, elle a traversé l'océan 28 fois. Elle est frêle maintenant, Mère Cabrini. Elle est malade. Elle n'est pas si vieille que ça, mais elle a vieilli. Elle veut y passer ses derniers mois à Chicago, au milieu de ses sœurs. Ses sœurs, justement, remarquent qu'il y a chez elle une sorte de tendresse et de bonté encore plus grande que d'habitude. Elle croit voir là un présage de sa mort prochaine. En dépit de cela, Mère Cabrini est heureuse de visiter la campagne auprès de Chicago. Elle cherche en fait une ferme assez grande pour nourrir l'hôpital Columbus de Chicago et aussi le couvent des sœurs. Or, justement, elle conclut une entente avec le fermier après avoir personnellement inspecté la propriété et même les vaches, comme toute bonne fermière italienne doit faire. Mais elle n'est vraiment pas très bien, elle faiblit. Le 21 décembre, elle se lève pour la messe à l'heure d'adoration devant Saint-Sacrement exposé. Le reste du jour, comme elle craint les restrictions de guerre, on est en pleine guerre, elle prépare de ses mains de petits cadeaux de Noël pour les enfants. Des cadeaux qu'elle seule avait l'art de rendre attrayants. Les enfants raffolent de tout ce qu'elle confectionne. Non pas tant à cause de la valeur de l'article, que parce qu'il vient des mains de leur madre, la madre. Et ne pouvant pour le moment remplir toute sa charge de supérieure générale, elle s'en remet à la supérieure locale, qui vient souvent à sa chambre demander des renseignements relatifs à la direction de la maison. Et ce jour-là, Mère Cabrini la retient, parle du progrès de la guerre, etc., etc. Puis quelques instants plus tard, une jeune sœur entre. Elle dit, « Mère, prendrait-elle un peu de soupe? » On parlait à la troisième personne, vous savez, dans ce temps-là. Hein? Je me souviens, quand je suis entré dans un monastère dans les années 40, on parlait aux abbés qui nous arrivaient de France, à la troisième personne. « Est-ce que le père abbé... » Alors, c'est la même chose. « Mère, prendrait-elle un peu de soupe? Pouvait-on l'apporter? » C'est la question. Et Francesca sourit, « Apportez-la. » Et si je ne puis la manger, vous me donnerez autre chose. Elle demande à cette même jeune sœur si elle voudrait bien, dans sa bonté, brosser le parquet à côté de sa chaise surtout. Et s'il vous plaît, chère sœur, ne laissez pas un grain de poussière si vous en voyez un. Toujours cette exigence, un peu étrange, qui fait parfois les saints. Il paraît que les saints, c'est pas commode, mais ce sont des saints. À midi moins 10 minutes, à peu près, la mère assistante se présente. Il y avait une question à régler. Mère Cabrini répond. Comme midi sonne, l'assistante revient pour lui rendre compte de ce qu'elle a fait. Mais elle trouve la porte fermée à clé, alors elle s'éloigne contente. Ça signifie que Mère Cabrini va se lever. La cloche a déjà appelé les sœurs au dîner. Alors l'assistante se rend donc au réfectoire pendant que l'infirmière de la supérieure demeure dans le corridor, en face de la porte fermée, pour surveiller. Personne ne sait. Personne ne pourrait même se permettre des conjectures sur ce qui se passe entre Dieu puis l'âme de cette sainte, de cette fidèle servante qui est Mère Cabrini, pendant cette mystérieuse et ultime veille, semble-t-il, de la mort. Et voici tout ce qu'on a pu dire. Je cite, « Quand Mère Cabrini n'était pas plongée dans la contemplation divine, sa porte était toujours ouverte. Elle la ferma cette fois pour se soustraire aux regards indiscrets. Mais pas assez tôt cependant, déjà on avait aperçu une grande lumière brillante, inexplicable, qui inondait sa modeste cellule. Maintes fois dans le passé, au cœur des nuits silencieuses, Dieu avait parlé à l'âme de sa bien-aimée. Les sœurs le savaient. Car alors, sa compagne devait changer de chambre parce que le lit de Francesca Cabrini était entouré d'une lumière trop éblouissante. En vérité, lorsqu'elle pénétra dans le ciel, ses yeux étaient depuis longtemps préparés à envisager la gloire du soleil éternel. » C'est la fin de la citation. À part les méditations écrites pour ses sœurs et les lettres exquises qui trahissent à son insu la profondeur puis la ferveur de sa vie intérieure, un seul confident de son âme, de sainte, a été sauvé des flammes. C'est un carnet de retraite où elle écrivait les aspirations brûlantes puis les désirs intenses de son âme, assoiffée d'amour et tendant avec une extraordinaire véhémence à l'union divine. Elle avait fait disparaître toutes les autres pages qui auraient pu trahir ce qu'on appelle en langage mystique les secrets du roi. Au cours d'une retraite, elle a écrit « Je désire mourir d'amour après une vie de parfait abandon à Dieu. Ô Jésus, je vous aime tant. Je suis consumé par votre amour. Pour vous, je languis. Je meurs. Mais en dépit de cette ardeur intense, je vois. Je sens que ce n'est là qu'une faible étincelle comparée au feu d'amour dont vous brûlez pour moi. Donnez-moi un cœur grand comme l'univers, afin que je puisse vous aimer. Sinon, autant que vous le méritez, du moins autant qu'une créature en est capable. Ô adorable cœur de Jésus, cœur très aimant, cœur en flamme, fournaise ardente de divine charité, que voulez-vous que je fasse? Je suis tout à vous, toute prête à être sacrifiée. Faites de moi tout ce que vous voudrez. » Elle sentait que son cœur allait éclater d'amour. Sans aucun doute, elle qui avait si souvent lu dans l'avenir, savait qu'elle était sur le point de commencer sa vraie vie. Dieu seul peut lui donner la force de se lever et d'ouvrir sa porte, cette porte qui a dérobé à tout regard les premières lueurs du paradis. Elle tourne la clé et agite sa clochette. La petite infirmière, alarmée, se précipite, entraînant les autres. Quand elles arrivent, leur mère est assise sur une chaise de jonc, et un flot de sang coule de sa bouche. Le cœur a vraiment cédé sous la force de l'amour. Alors le prêtre et le médecin arrivent sans retard, et pendant que le premier administre les derniers sacrements, l'autre multiplie les soins, fait tout en son pouvoir pour ramener Mère Cabrini à la vie, mais cette sainte extraordinaire est déjà entrée dans la vie, dans la grande vie.
Car la mort n'existe pas, hein? Je vous le rappelle, il n'y a pas de mort. Il n'y a qu'une grande naissance. N'ayez pas peur de la mort. C'est le plus beau jour de notre vie. Oui, c'est le plus beau jour de notre vie, la mort, quand on s'y est préparé, quand on meurt dans l'amour, comme Mère Cabrini.
La rappeler sur terre, c'eût été une vraie cruauté, me semble. Dieu a entendu sa prière, il a accepté cette victime d'amour, comme on dit, en langage mystique. Ce cœur, assez grand pour embrasser l'univers, était trop faible pour soutenir l'assaut de l'amour infini. Il avait éclaté, a-t-on dit. Et on ajoute, mais en se brisant, il libérait sans lutte, sans secousse, sans agonie, l'âme qui n'avait vécu et travaillé que pour lui seul. Ces lignes ont été écrites par un prêtre qui la connaissait à fond. Mais c'était un homme absolument qualifié pour parler d'elle. Alors les sœurs comprennent pourquoi elle a demandé un habit neuf et pourquoi, dans sa générosité, elle désirait en donner un à chaque sœur comme cadeau de Noël. C'était pour son dies natalis, le jour de sa naissance, comme je viens de vous dire, pour le jour des noces éternelles, pour la rencontre avec l'époux divin. Ce jour devait être, pour elle et toutes ses filles, une si grande fête. Elle s'explique aussi pourquoi, en adressant ses vœux de Noël aux cardinaux, évêques et prélats, elle a écrit en latin sur chaque carte les versets 3 et 4 du psaume 42. Qu'est-ce que c'est? « Envoyez votre lumière et votre vérité, Seigneur. Elles m'ont conduite et m'ont amené à votre sainte montagne et dans votre tabernacle. Et je monterai à l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. » On récitait ça au pied de l'autel quand on était enfant. Une des
quand on servait la messe. Une des sœurs, qui sans doute lui servait alors de secrétaire, suggère que le souhait est inaccoutumé à Noël. On semble leur souhaiter le paradis. Mère Cabrini répond, laissez-le tel qu'il est. Sa figure sereine et belle, sans l'ombre visible d'une souffrance ou d'un effort. Et durant les 10 jours où sa dépouille reste exposée à la vénération de tous, on ne remarque aucun indice de décomposition ou même d'altération. Et ses membres restent flexibles. Encore un autre miracle. Il y en a tellement dans sa vie. Je pourrais vous en faire 25 émissions pour raconter tous les miracles. C'est à l'émerveillement général. Et c'était le 22 décembre de l'année 1917. Françoise Xavier Cabrini, ou Francesca Xavier Cabrini, avait vécu 67 ans, 5 mois et 6 jours. Tout Chicago est en deuil, évidemment. Aussi bien qu'au fond le monde entier. Elle est connue et aimée partout. Des témoignages vraiment sincères de sympathie proviennent de partout, quoi. Du pape, des cardinaux, des archevêques, des maires générales, des autres congrégations, des chefs d'État, des sénateurs, des membres du Congrès, de toutes sortes de sociétés, d'associations médicales, des organisations italo-américaines, évidemment, et de milliers de personnes. Sainte Françoise Cabrini, bien, elle est d'abord exposée à Chicago, où des milliers de gens viennent exprimer leur chagrin. Ses sœurs accompagnent leur mère à New York pour la messe de funérailles et pour l'enterrement. Là, la foule est encore plus nombreuse. Plus tard, elle sera enterrée à West Park comme elle en avait exprimé le désir. Sainte orpheline, habillée de blanc et chacune portant un beau lys blanc, accompagne le cercueil jusqu'à la tombe. Au début, on a fait des recherches pour obtenir la béatification de Mère Cabrini. On a trouvé toute une série de miracles mineurs, secondaires. Mais vraiment aucun sûr là est d'un calibre nécessaire pour une cause de béatification et de canonisation. Et c'est ce miracle que je vous ai raconté au début, le cas de Peter Smith, ce bébé naissant, qui présente tout ce qu'il faut. C'est un très, très grand miracle. Mère Françoise Cabrini a donc été canonisée finalement par Pie XII en 1946 grâce à d'autres miracles, moins de 30 ans après sa mort. Et elle est devenue la première citoyenne américaine à être canonisée. Je vous parlerai bientôt d'une autre religieuse qui est la première américaine de naissance à avoir été canonisée. C'était une anglicane, mère de famille, qui est devenue fondatrice aussi d'une congrégation très importante aux États-Unis. Une sœur fantastique qui s'appelle sœur Sainte Elizabeth Ann Seton, morte en 1821, c'est la première sainte vraiment américaine, elle était mère de 5 enfants. Je vous en parlerai le 4 janvier. Lisiane Gagnon tire son nom de cette sainte. Elizabeth Ann, ça fait Lisiane, Lizzie Ann. Et Lisiane Gagnon porte le nom de cette sainte. J'espère qu'elle va aller sur les voies de la sainteté, elle aussi. En 1950, donc, le Vatican a nommé Mère Cabrini patronne des immigrants. Aujourd'hui, tous les Américains, aussi bien que les Italo-Américains, les Américains d'origine italienne qui sont extrêmement nombreux, tout comme nos Italiens ici au Canada, particulièrement à Montréal, eh bien, sont fiers d'avoir cette grande sainte pour les inspirer. J'en profite d'ailleurs avant de terminer pour vous rappeler que le directeur de Radio Ville-Marie est un Italien originaire de Naples
ici au Canada depuis très très longtemps, plus de 40 ans je crois, un bon Napolitain, dont le frère jésuite à Naples est un extraordinaire jésuite, Monsieur Raphaël Piron. Je vous rappelle aussi que nous avons à Montréal toujours cet hôpital Santa Cabrini. Comme ces religieuses le disent, nous comprenons qu'il faut prier afin de ne pas mourir d'une mort subite et imprévue. Mais celle qu'on appelait la colombe de Sant'Angelo, dont chaque souffle de vie a été un acquiescement au vouloir de Dieu, s'est tenue prête, elle, et sur le qui-vive, Mère Cabrini était toujours prête. Elle communiait tous les jours, et vers la fin, comme en viatique, c'était pour son voyage qu'elle communiait. Vous communiez tous les jours. Est-ce qu'on a quelque chose de plus beau à faire chaque jour? Pourquoi écouter les nouvelles 2-3 fois? Pourquoi lire 2 journaux? Pourquoi courir ici et là pour papoter au téléphone? Pourquoi perdre tant de temps quand 25 minutes aujourd'hui, ça dure 25 minutes une messe? Et c'est la plus belle chose. Elle savait, elle, que c'était la plus belle chose. Et son humilité n'aurait pas approuvé ce qui a suivi son départ pour le ciel, évidemment, toute cette gloire qui l'entourait. Mais si toutes les circonstances de sa vie avaient été imprégnées de prières, sa mort a amené un flot ininterrompu de prières sur les lèvres de ceux innombrables qui sont venus s'agenouiller pour lui rendre un dernier hommage touchant. N'ayez pas peur que votre corps soit exposé, mais demandez qu'on prie lorsque vous mourrez. Soyez enseveli dans une église avec votre corps, tabernacle de la Trinité. Attendez après les funérailles pour qu'on fasse disparaître votre corps. Tabernacle de la Trinité, elle avait toujours été l'amie des pauvres, des riches, des blancs, des noirs. Des gens de toutes races et nationalités ont entouré ce tabernacle de l'Esprit-Saint, comme on disait, sachant parfaitement bien qu'une sainte avait vécu parmi eux et pour eux. Parce qu'il venait prier, son âme très humble devait plutôt s'en réjouir. Les enfants aussi ont eu quand même leur arbre de Noël et leur petite fête. Ils connaissaient le cœur de la mère Cabrini, plus que jamais présente, et on a respecté son désir. Sainte Mère Cabrini, veillez sur nos femmes ici. Transmettez au cœur de nos femmes ce désir que vous avez eu de servir le Sacré-Cœur, de servir les pauvres, de servir les malades, les orphelins, de servir avec un enthousiasme débordant, sans cesse renouvelé dans l'oraison, la prière, et plus particulièrement dans l'Eucharistie. Amen.